Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Connaissez-vous ce mot aussi barbare qu'effrayant, l'intelligentisation? C'est de fait l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes. Elle est déjà en pratique sur le champ de bataille, en Ukraine, mais aussi en Palestine, véritable laboratoire d'essais grandeur nature de ces guerres qui n'ont hélas rien d'artificiel. Pour en parler, je reçois Jean-Michel Valentin, chercheur en géopolitique et auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions du Nouveau Monde, intitulé « Hyperguerre, comment l'IA révolutionne la guerre ». Bonjour Jean-Michel Valentin.
Bonjour.
Ça y est, donc on y est. Les algorithmes font des milliers de morts.
Les algorithmes sont dans la guerre. Les algorithmes sont utilisés pour faire la guerre et sont militarisés. Et ça, on le constate dans l'ensemble des conflits actuels, c'est-à-dire les grands conflits comme l'Ukraine, qui est une sorte de laboratoire à ciel ouvert de la militarisation de l'intelligence artificielle. On le voit aussi sur les différents fronts à Gaza, au Liban, dans le conflit entre Israël et l'Iran. On le voit aussi dans le champ de ce que l'on appelle désormais la guerre cognitive, c'est-à-dire la militarisation des réseaux sociaux.
Voilà, la guerre de l'information.
La guerre de l'information, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que par
c'est
le
la guerre de la connaissance.
C'est la guerre de la connaissance, voire même de la compréhension, puisque les algorithmes permettent de littéralement cibler de façon personnalisée des millions, voire des dizaines de millions de cerveaux en même temps. Donc, véritablement, le champ de l'intelligence artificielle est désormais intégré à celui de la guerre.
Est-ce que l'Ukraine, c'est vraiment la première fois qu'on utilise l'intelligence artificielle à ce niveau-là ?
Alors, l'Ukraine, je dirais que c'est à la fois un attracteur de l'intelligence artificielle et un laboratoire. C'est-à-dire que Très vite, après le début de l'offensive russe, les forces de l'OTAN ont commencé à soutenir de façon logistique les forces ukrainiennes. Évidemment, derrière, il y a l'armée américaine qui a intégré, qui est un énorme intégrateur de technologies depuis très longtemps. Néanmoins, il y a un basculement avec l'arrivée d'Amazon, de Palantir, qui est aussi surnommé le Google des espions, et d'autres GAFAM.
Starlink,
bien sûr, d'Elon Musk. Starlink, qui joue un rôle absolument stratégique, puisque les satellites d'Elon Musk, couplés à des antennes relais portatives qui sont distribuées à très grande échelle, assurent la connexion Internet de l'Ukraine. Donc, partant de là, Starlink joue un rôle absolument stratégique et permet aux autres opérateurs de l'intelligence artificielle de soutenir l'Ukraine. Et en face, les Russes, eux aussi, se mettent à utiliser l'IA.
Est-ce que ça veut dire que les armées n'ont pas la technologie IA et qu'il faille passer par le civil pour avoir ces technologies IA militaires ?
Ça dépend des périmètres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que nous parlons de dynamiques technologiques extrêmement récentes. AlphaGo, l'intelligence artificielle de Google qui parvient à battre un...
Aux échecs.
Un grand maître de Go, c'est 2016. Nous sommes dans des pas de temps qui sont extrêmement courts, extrêmement rapides. Et en fait, l'Ukraine, c'est vraiment ce moment où l'intelligence artificielle arrive sur le champ de bataille et où plus l'intelligence artificielle est utilisée, plus elle est utilisée.
Ouais. Concrètement, pour que ce soit simple, ça veut dire que ce sont des machines qui vont décider des cibles de tir ou pas ?
Pas exactement. C'est-à-dire que le champ de bataille produit énormément de données. Données sont captées par des drones, par des satellites, par des téléphones portables, etc. Et que donc des algorithmes d'intelligence artificielle trient ces données, les traitent et, par exemple, proposent des solutions de tir aux opérateurs de drones ukrainiens. Ça, c'était en 2022. Depuis le printemps 2024, il y a déjà des essaims de drones qui sont désormais autonomes. Alors, ce n'est pas tous les drones, ce sont des essaims, c'est une phase encore expérimentale ou semi-expérimentale, mais qui peuvent aller au combat d'eux-mêmes. En fait, il y a plusieurs révolutions en une qui sont en train d'avoir lieu.
Donc, c'est-à-dire que l'homme n'appuie pas sur le bouton dans cette deuxième partie de la guerre, là.
Alors, là aussi, les couches de technologie se superposent. Donc, les hommes continuent d'appuyer sur le bouton, ou les hommes supervisent, ou les hommes supervisent la supervision. Mmh. Mais tout va extrêmement vite. Et en fait, néanmoins, un certain nombre, enfin, les états-majors sont quand même attentifs à pouvoir maintenir leur pouvoir de décision.
Ouais. Ce que vous dites dans ce livre aussi, c'est que, par exemple, en Palestine, l'IA va calculer la probabilité qu'une frappe peut toucher X% d'innocents.
Alors, depuis 2021, l'armée israélienne utilise donc des intelligences artificielles pour mettre au point des listes de cibles. Ces listes de cibles, ensuite, donc sont transmises aux unités de combat et notamment à l'armée de l'air israélienne qui valide ou non les cibles qui sont proposées. Alors ensuite, l'énorme problème qui se passe à Gaza, c'est que nous sommes dans l'après 7 octobre. Mmh. Et que le 7 octobre a eu un effet choc terrible sur la société israélienne et que un certain nombre de règles de validation des cibles sont faites extrêmement rapidement. Mmh. Et néanmoins, il faut bien voir aussi que cette guerre de Gaza, qui est désormais qui s'étend au Moyen-Orient, qui s'étend au Liban, etc., c'est une guerre où l'intelligence artificielle est vraiment utilisée par différents protagonistes. L'intelligence artificielle, comme je le disais, elle permet à l'armée israélienne de produire des cibles. Elle est aussi utilisée par d'autres belligérants pour diffuser des contenus sur les réseaux sociaux de façon à toucher les opinions publiques de façon quasi personnalisée via les réseaux sociaux.
Une question sur la Chine. Est-ce que la Chine est autant en avance que les États-Unis sur ces questions-là?
Alors, ça dépend de ce que l'on appelle l'avance. L'avance sur quel front, sur quel champ? C'est-à-dire que...
Sur le champ militaire, sur pas le champ, cognitif.
Sur le champ de la militarisation de l'intelligence artificielle, les Chinois prennent une avance importante, notamment dans le champ des drones, puisque les drones sont équipés d'algorithmes de plus en plus performants et sont produits de façon industrielle. Et par ailleurs, ils sont diffusés un peu partout dans le monde, ce qui permet aussi de récupérer des données, des données, de l'info et de l'expérience.
Ouais.
Néanmoins, les États-Unis ont réalisé qu'ils risquaient de prendre du retard et sont eux aussi... en pleine mobilisation pour intégrer l'intelligence artificielle.
Et nous, les Européens,
nous ne marchons pas au même rythme. En fait, ce que l'on voit très bien dans le cas américain, dans le cas chinois, dans le cas israélien, dans le cas iranien et d'autres, c'est que la militarisation de l'IA repose sur l'existence d'une base scientifique, technologique et industrielle importante.
Oui.
Ensuite, dans le cas européen, en fonction de ces trois conditions, la base scientifique, la base technologique, la base industrielle, l'effort de militarisation est plus ou moins important ou plus ou moins efficace. Par exemple, en Allemagne... dans le cas de la remilitarisation de l'Allemagne qui accompagne la guerre en Ukraine, eh bien, le gouvernement Scholz a récemment passé commande d'une unité de robots de combat terrestres.
Ouais. Donc, qu'il a acheté sur étagère aux Américains?
Non, qu'il achète à l'industrie allemande.
D'accord.
Mais effectivement, vous avez raison, il y a une dimension de compétition géoéconomique tout à fait importante, puisque la remilitarisation des pays européens va vite. Il faut qu'elle soit interopérable avec les forces de l'OTAN, donc les forces armées américaines, d'où la question de acheter aux Américains ou faire du « made in Europe ».
Dernière question, c'est une question d'argent avant tout ou de volonté?
Oh là, c'est une question de volonté, c'est une question d'argent, c'est une question de capacité. Il faut avoir les scientifiques, il faut avoir les chercheurs, il faut avoir les industriels, il faut avoir la coordination politique qui va avec. C'est une très grosse affaire.
Merci beaucoup Jean-Michel Valentin pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.